Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, les midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer ensemble en ce dimanche 3 juillet. Le gouvernement Borne 2 est attendu normalement demain. Des ministres à remplacer, des LR et des écolos à faire rentrer. Et puis deux conseils des ministres, il est urgent d'avancer. Le timing serré d'un début de semaine compliqué avec Louis Dragnel. Je recevrai également pour notre dézoom politique du dimanche le politologue Jérôme Sainte-Marie. Le projet de loi pouvoir d'achat présenté cette semaine. Enfin, on connaît déjà beaucoup de mesures improbables. Parole de français, est-ce que vous avez changé vos habitudes? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement avant l'annonce de ce projet de loi? Reportage à suivre dans ce journal. Il s'invite dans notre début d'été. Le Covid et ses variants, 125 000 nouveaux cas par jour, des hospitalisations qui grimpent. Nous écouterons notamment la crainte des restaurateurs. Les premiers vacanciers savourent leur premier moment de détente. Nous serons à Saint-Brévin, c'est près de la Baule. Et puis nous verrons avec mon invité, le spécialiste du tourisme Didier Arino, les tendances de cet été, les destinations et le budget moyen alloué à ces vacances. Les sports avec le Tour de France, bien sûr, et notre rendez-vous de la mi-journée avec Richard Virenque. Troisième et dernière étape au Danemark, départ après 13h et le maillot jaune sur les épaules du Belge Wout van Aert. Mais avant de développer ces titres, la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, très beau temps partout avant que le ciel ne se dégrade du sud-ouest aux Alpes et des températures qui montent encore dans le sud-est jusqu'à 37 à Manosque, à Gap, à Nîmes, à Avignon et 36 à Aubenas et à Valence.
Météo complète juste avant 13h. Et c'est pas le week-end pour tout le monde, ça cogite sans doute beaucoup au sein de l'exécutif. Au programme cette semaine, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, mercredi, deux conseils des ministres et un remaniement. Voyons avec vous, Louis Dragnel, le timing des prochaines heures, le timing d'un début de semaine agité.
Un agenda au pas de course pour Emmanuel Macron qui entend occuper l'espace de ce début de semaine. Avec un remaniement qui doit intervenir demain, juste avant un Conseil des ministres, le président a jusqu'à mardi soir pour annoncer la formation de son nouveau gouvernement au plus tard. Au-delà de la succession des ministres battus aux législatives et du remplacement de Yaël Braun-Pivet au ministère des Outre-mer, elle est désormais présidente de l'Assemblée nationale. L'enjeu pour le chef de l'État est d'enfin donner le ton de son second quinquennat qui n'a pas encore vraiment commencé. Ensuite, mercredi, nouveau Conseil des ministres avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Pour terminer, on ne sait pas encore si l'hôte de Matignon sollicitera le vote de confiance des députés.
Le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Quel gouvernement? Comment l'élargir? C'est notre dézoom politique du dimanche. Avec aujourd'hui le politologue et président de l'Institut Polling Vox, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les prochaines heures seront décisives. Louis vient de le dire, après 15 jours de flottement, le président va accélérer. Il ne faut pas se rater, hein?
Non, effectivement, parce que il y a un affaiblissement très net de la crédibilité du président de la République qui est victime cette fois-ci d'une crise dont il est largement la cause. Ça n'a rien à voir avec les événements qui avaient marqué son premier quinquennat. Et donc là, il encourt le risque d'une perte d'autorité, ce qui, vu l'organisation du pouvoir sous la Ve République, aurait des effets dramatiques.
Jérôme Sainte-Marie, élargir le gouvernement, des noms circulent côté écologiste, mais également chez les LR. Il faut absolument trouver des républicains, il faut avancer.
Eh bien, il faut faire avec ce que l'on a, si j'ose dire, du côté de la République en marche. Ouais. Et de fait, les républicains sont aujourd'hui très affaiblis. Ils ont moitié moins de sièges qu'ils n'en avaient lors de la législature précédente, il faut le rappeler. Leur score à la présidentielle a été divisé par 4 en 5 ans. Leur score aux législatives a été également très affaibli, divisé à peu près par 2, enfin un peu moins. Vous avez désormais donc à peu près 7% d'électeurs qui sont des républicains. Mais vous avez quand même 64 députés qui appartiennent aux Républicains. Tous ne pourront pas suivre, mais certains, malgré tout, vont être tentés de saisir la main que leur tendrait éventuellement le gouvernement de Mme Borne. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie des Républicains, des sympathisants, donc des électeurs de ces députés, ont maintenu leur confiance à l'exécutif durant tout le quinquennat. Il y a eu durant ces 5 ans une période assez longue où une majorité d'électeurs de droite avaient confiance dans Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, surtout, on s'aperçoit qu'une très large majorité d'entre eux souhaitent que Emmanuel Macron puisse gouverner.
Ouais. Jérôme Sainte-Marie, il y a aussi le cas de l'ex-LR Damien Abad, ministre de plus en plus fragilisé. Il va falloir trancher.
Oui, si j'ose dire, Emmanuel Macron n'a pas eu de chance aux législatives. Il a perdu certains de ses fidèles, comme M. Castaner ou M. Ferrand, des marcheurs, si j'ose dire, de la première heure. Et inversement, des ministres venus de la droite, mais qui lui posent davantage problème, c'est-à-dire M. Darmanin et M. Abad, eux ont été confirmés par les électeurs. On voit bien que dans le contexte, un post-MeToo, ça devient très difficile de garder M. Abad. C'est aussi bête que cela.
Dernier point, autre rendez-vous important à l'agenda, ce sera bien sûr le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, mercredi prochain à 15h. On ne sait pas encore si ce sera suivi d'un vote de confiance ou pas. C'est dangereux pour elle ?
Oui, on est dans une contradiction terrible. À la fois, le macronisme est avant tout un mouvement, est avant tout un projet, est avant tout des réformes. Et donc, il faut qu'il propose des choses. Il faut que, sinon, il s'affaisse. Et en même temps, les Français sont très réticents. Les Français ne veulent pas de la retraite à 65 ans pour prendre une réforme, comment dirais-je, emblématique. Et c'est pour ça qu'une majorité de Français, finalement, souhaitait avoir un premier président de la République n'ayant qu'une majorité relative. Alors, ils le souhaitaient pour des raisons contradictoires selon leurs préférences politiques, mais ce résultat, qui est assez embêtant pour le fonctionnement de nos institutions, correspond à une attente de l'opinion.
Le politologue et président de l'Institut Poningvox, Jérôme Sainte-Marie, ce midi dans le Dézoom politique. Merci à vous.
Merci à vous.
À retenir encore en politique, la mise au point d'Éric Coquerel, l'insoumis, se justifie aujourd'hui après avoir été mis en cause pour son comportement supposé avec les femmes. Il dénonce dans le JDD des rumeurs infondées. Il vient de le redire chez nos confrères de BFM.
Je n'ai jamais eu de ma vie, et c'est quelque chose que j'aborde, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un comportement, que ce soit harcèlement, c'est-à-dire pour obtenir par la force quelque chose psychique ou physique, quelque chose qu'on ne souhaite pas vous donner. Évidemment, agression et viol, etc., c'est encore pire. Sur cette fameuse soirée, j'allais dire comme dans des boîtes, etc., je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacés, des gestes, on va dire, de drague agressive, même si vous voulez, et qui pourrait après valoir le fait que, ah bah oui, ma réputation est justifiée, tenez, il y en avait un. Et elle, hier, dans Mediapart, puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je cite, « Et si je n'ai pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave. »
Voilà pour le nouveau président de la commission de la défense de l'Assemblée, Éric Coquerel. Autre gros sujet de la semaine à venir, le pouvoir d'achat avec la présentation du projet de loi du gouvernement. On connaît plusieurs mesures déjà, notamment le fameux chèque alimentation. Parole de français à présent, ces prix qui augmentent, comment vous faites? Comment on s'adapte? Et qu'est-ce que vous attendez finalement des mesures gouvernementales? Reportage de Wilfried de Villers ce matin à l'heure des courses.
Devant ce supermarché parisien, on se presse pour faire ses courses tout juste avant le déjeuner.
Là, j'ai acheté du yaourt, de boisson.
Du pain.
Bachir est retraité avec une petite pension, alors ses prix en hausse l'impactent particulièrement. Il fait désormais plus attention.
Les choses que j'ai vraiment besoin, ben je suis obligé de l'acheter, même si c'est plus cher. Pour les, par exemple, j'achète un kilo, j'achète 500 grammes, ça me suffit.
Ce serait la ceinture moins consommée, ou du moins consommée autrement. Véronique, elle aussi, a changé ses habitudes.
On est revenu en fait sur des produits uniquement essentiels et pas des produits plaisir. Je réfléchis à deux fois avant d'acheter des petits plaisirs au quotidien.
Et pour faire face à l'inflation des derniers mois, le gouvernement promet un chèque alimentaire de 100 euros pour les foyers les plus modestes. Bien, mais pas suffisant, estime Ange.
Le chèque de 100 euros, c'est comme une prime. Et une prime, ça va faire quoi? C'est une fois qu'on a besoin d'une augmentation salariale pour pouvoir faire face à cette crise.
Avec leurs 3 enfants, Ange et sa femme appréhendent aussi la rentrée prochaine, période importante de dépenses. Quant aux vacances, ils partiront bien au mois d'août, mais moins loin que prévu et moins longtemps.
Voilà, reportage signé Wilfried de Villers et on parlera justement dans quelques minutes de notre budget vacances. Voilà donc pour les particuliers, mais les entreprises sont également touchées par cette inflation. Elles vont pouvoir bénéficier du plan de résilience dès demain pour compenser la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Aurélien Fleureau.
C'est demain que les entreprises concernées pourront demander leur aide d'urgence gaz et électricité, une mesure très attendue depuis l'annonce de ce plan de résilience le 16 mars dernier par Jean Castex, alors Premier ministre. Selon Bercy, il s'agit de soutenir la compétitivité des entreprises et d'éviter les arrêts des sites qui assurent des productions essentielles. La Commission européenne a validé le plan français jeudi dernier. Et les critères pour en bénéficier sont donc désormais fixés. Les entreprises devront avoir effectué des achats de gaz et d'électricité qui atteignent au moins 3% de leur chiffre d'affaires 2021. Et dans le même temps, elles doivent avoir subi un doublement du prix du gaz sur un an. Selon le niveau de perte, l'aide peut aller jusqu'à 50 millions d'euros. Cela concerne en priorité les entreprises de 26 secteurs industriels, dont la sidérurgie, la fabrication de certains métaux ou encore de pâte à papier.
Explication Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
12h40, c'était l'invité qu'on n'attendait pas. En moyenne, 125 000 nouveaux cas par jour. Le nombre des hospitalisations est également en hausse. Bref, le Covid vient perturber ce début d'été, d'où la crainte de nombreux professionnels, dont les restaurateurs. Ils ont peur de voir revenir de nouvelles restrictions. Reportage sur les terrasses de la capitale, Arthur Pereira.
Seul derrière son bar, Jérôme prépare les cocktails pour la clientèle. Une clientèle au rendez-vous malgré l'augmentation récente du nombre de personnes positives au Covid-19. Inquiet, il craint la mise en place de nouvelles mesures.
Ça va être usant pour nous, pour tout le monde, les touristes qui ne vont pas revenir dans les bars. Déjà que ça a beaucoup changé les habitudes, ouais, c'est inquiétant.
Qu'importe les restrictions, le restaurateur est bien décidé à les respecter pour maintenir l'activité de son bar.
Si dans un premier temps, c'est que le personnel qui doit porter le masque, on portera le masque. Et si on nous demande d'accueillir moins de gens à l'intérieur, on sera obligé d'accueillir moins de gens à l'intérieur. Tout pour éviter une fermeture du bar, quoi.
Assis au comptoir, Henri et Marie partagent une bière pour le mariage civil d'une de leurs amies. Masque sous le menton, ils ont décidé d'être plus prudents.
Au boulot ou dans les transports, parce que par rapport à mes collègues, ils ont eu le Covid là récemment, donc c'est reparti, on le sent que ça revient.
Les vacances arrivent bientôt, et donc on doit prendre l'avion et notamment aller vers les États-Unis, donc c'est plus là-dessus.
Malgré les 125 000 nouveaux cas recensés hier, aucune mesure n'est pour le moment envisagée par le gouvernement pour le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Arthur Pereira pour Europe 1. L'infectiologue Benjamin Davido était ce matin l'invité de la matinale week-end. Il prévoit un pic pour le mois d'août et pointe du doigt le masque retiré trop tôt pour lui. Ce rebond est donc logique. On l'écoute.
L'immunité naturelle ne suffit pas à protéger durablement les gens. Ouais. Et ceux qui pensaient à cette oasis qui suffisait d'être atteint d'Omicron et que l'épidémie serait terminée, eh bien, se sont trompés. Et on voit bien que même si le vaccin, évidemment, ne peut pas tout empêcher, le vaccin, lui, protège des formes graves. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, qui d'ailleurs ne passent pas que par la vaccination, mais pour vivre avec ce virus. On va, malheureusement, j'ai bien peur, se retrouver dans une situation où l'été ne sera pas l'été serein qu'on avait envisagé en début d'année.
Benjamin Davido ce matin, invité de la matinale week-end sur Europe 1. Allez, restez avec nous dans un instant, on va parler des vacances. Quel budget, quelle destination et puis les conséquences des grèves, bien sûr, dans les transports. Et puis le sport avec la troisième étape aujourd'hui du Tour de France. Notre consultant Richard Virenc nous rejoindra. Bon appétit, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.
Pile une heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Hier, on a fait la route avec les premiers vacanciers. Aujourd'hui, on s'installe avec les juilletistes. Reportage à Saint-Brévin, c'est en Loire-Atlantique, près de la Baule. Charles Guyard.
Assis sur les marges de son bungalow, guitare à la main, Patrick fredonne un air d'Eddie Mitchell.
Il semblait bien dans sa peau.
Allongé dans un transat à côté, Pascal s'accompagnait aux anges.
Oui, il me fait la sérénade, voilà.
C'est agréable.
Ah bah oui, à tout âge, hein. Voilà.
C'est quoi le programme?
Eh bien, je crois qu'on va aller faire un petit tour à la mer.
De la musique douce pendant la sieste avec la plage à une centaine de mètres. Bref, le paradis, comme le nom de ce camping de Saint-Brévin-les-Pins, où les vacances ont bel et bien commencé, le patron Nicolas Cherrier.
La saison se présente plutôt bien. Avec le beau temps, tout le monde commence à arriver. Cette année, on voit arriver à nouveau la clientèle étrangère.
Des étrangers comme Val, elle est irlandaise et avec avec sa famille, elle n'avait plus traversé la Manche depuis 3 ans.
On vient chaque année et avec le Covid, c'était juste pas possible. Et là, on est ici, on est heureux.
Heureux comme cette famille arrivée de moins loin, dit Lévilaine, pour quelques jours de repos.
Là, ça va être la plage, se promener, marcher.
Un joli programme qu'Isabelle n'entend pas voir gâché par une reprise de l'épidémie de Covid.
Seules vagues qu'on aura viendront de la mer.
Une mer calme, un ciel ensoleillé et un peu de légèreté, c'est le début de la saison d'été.
J'ai du regard un spot, voilà.
Saint-Brévin, Charles Guyard, Europe 1.
Et bonjour Didier Arino.
Bonjour Thierry Dagéral.
Directeur général du cabinet de conseil pro-tourisme. Combien de Français vont prendre des vacances cet été ?
Alors la bonne nouvelle cette année, c'est que 34 millions de nos concitoyens envisagent de partir en juillet-août. C'est près de 2 millions de plus qu'avant la crise. On voit bien que pour nos concitoyens, les vacances sont fondamentales. On a une reprise non seulement du tourisme hexagonal, mais on a aussi, comme on l'a entendu dans votre reportage, le retour des clientèles étrangères.
Ouais.
Donc tout cela laisse augurer une belle saison touristique pour les acteurs, avec une augmentation pour l'instant du chiffre d'affaires de 12% en termes de carnet de commandes par rapport à l'avant-crise. Donc les voyants sont au vert, à l'exception des problèmes de personnel et de transport, comme on peut le constater.
On vient de parler de pouvoir d'achat, on a changé nos habitudes. Quel va être le budget moyen alloué à ces vacances ?
Alors ce budget moyen, il est aux alentours de 1950 euros pour une famille de 4 personnes, mais avec de très grandes disparités, il est relativement stable par rapport aux autres années. Mmh. En revanche, on a un budget qui est en très forte augmentation pour ceux qui choisissent de partir à l'étranger, et un budget en diminution pour ceux qui restent dans l'Hexagone. C'est lié aussi au fait qu'ayant plus de partants cette année, on a des Français qui repartent en vacances, mais qui ont des petits budgets, donc ça fait baisser la moyenne. Mais globalement, les prix ont augmenté de quasiment 12% dans le secteur du tourisme. Ouais. Donc à l'évidence, avec un budget stable, on doit faire un certain nombre d'arbitrages, et ces arbitrages ne se font pas en défaveur de l'hébergement, donc ça suppose à côté de faire attention sur les dépenses annexes, notamment les dépenses de restauration et les dépenses de transport.
Hier, c'était une journée compliquée, notamment à l'aéroport de Roissy à Paris. Plusieurs voyageurs sont enfin arrivés à La Réunion, à l'aéroport Roland-Garros, mais sans bagages, ils arriveront plus tard. Je voudrais qu'on les écoute au micro de Charles Lullier sur place.
Le vol, il était cauchemardesque. On a attendu des heures et des heures déjà pour faire enregistrer le bagage. Les bagagistes, déjà, ils étaient en grève. Le bordel total. Et il y a 200 bagages qui sont restés à Charles de Gaulle.
Au lieu d'arriver à midi sur Paris, on est arrivé à 3 heures. Ensuite, il fallait faire la queue pour l'enregistrement. Il n'y avait qu'un seul guichet ouvert. D'habitude, au moins un minimum deux. Là, il n'y avait qu'un seul.
Il y a eu les grèves déjà au départ de Paris. Les gens étaient obligés de déposer leur bagage parce qu'il n'y avait pas de possibilité au taxi d'arriver jusqu'à l'aéroport. On était sur le périph à traîner les bagages. Après, il y a eu des gros problèmes informatiques. Les valises n'ont pas pu être enregistrées. Et dans l'avion, il y a des gens qui se retrouvent sans rien. C'est des touristes. Ils se retrouvent à nu, quoi.
Voilà pour ces voyageurs qui sont arrivés à La Réunion, mais donc qui attendent leurs bagages. Didier Arino, ils peuvent se retourner contre la compagnie. Ils seront dédommagés ?
Absolument. Tout d'abord, tant qu'ils n'ont pas leurs bagages, s'ils ont des besoins d'achat, parce qu'il leur manque des affaires de toilette ou même des vêtements, ils peuvent les acheter, ils seront remboursés. Et si on ne retrouve pas leur bagage au bout de 21 jours, ils seront non seulement remboursés du bagage, mais aussi du contenu de ce bagage, pour peu qu'ils soient en mesure de présenter une facture du contenu du bagage. Donc oui, ils seront à l'évidence remboursés, surtout et assez facilement s'ils prennent une compagnie française.
Précision importante avec le directeur général de Pro Tourisme, Didier Arino, ce midi sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci à vous, Didier.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
1h10, la situation ce dimanche en Ukraine. Les combats font toujours rage dans le Donbass, mais les regards se tournent vers la Russie. Près de Kharkiv, à Belgorod, en Russie, où de fortes explosions ont fait 4 morts, Nina Droff.
Oui, selon le ministère de la Défense, 3 missiles ukrainiens ont été lancés sur cette ville russe frontalière de l'Ukraine. Ils ont été interceptés, mais une maison a tout de même été touchée par les débris. 4 personnes sont mortes. Écoutez cette habitante russe qui témoignait sur la chaîne de télévision locale.
C'est arrivé d'un coup. Les portes et les fenêtres de notre appartement ont explosé. Puis le toit s'est effondré. On a juste eu le temps de s'enfuir avec les enfants. C'était terrifiant.
Et les combats se poursuivent également sur le territoire ukrainien avec pour épicentre la ville clé de Lysychansk dans l'est du pays. Les forces russes ont annoncé à l'instant avoir conquis la ville. Mais cette information n'a pas encore été confirmée par les autorités ukrainiennes. En plus de ça, d'autres assauts sont peut-être à prévoir puisque le ton monte avec le Bélarus. Selon le président Loukachenko, l'Ukraine aurait tiré des missiles en direction de son territoire. Il a promis qu'une riposte serait instantanée en cas de nouvelle frappe.
J'ai donné l'ordre aux unités des forces armées d'avoir dans le viseur les centres de décision dans vos capitales.
Et la Russie a d'ailleurs prévu de livrer au Bélarus des missiles et des lance-roquettes dans les mois à venir.
Nina Droff, merci à vous. On passe au sport à présent et la troisième étape du Tour de France au Danemark. Troisième et dernière étape qui démarre dans quelques minutes. Axel May, vous êtes sur place, bien sûr.
Oui, oui, alors avec toujours des liaisons qui sont un peu compliquées depuis le Danemark. Oui. Vous m'entendez correctement, je me trouve. Et vous l'entendez peut-être juste à côté du podium où on présente les coureurs. La cérémonie va bientôt se terminer dans cette ville de Vejle qui est assez particulière parce qu'il y a des immeubles remarquables, notamment un immeuble en forme de vague. Voilà pour l'architecture. L'ambiance, elle est toujours au rendez-vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je parlais tout à l'heure avec l'un des speakers du Tour de France qui me disait que ça lui rappelait l'ambiance du Yorkshire en 2014 qui avait vraiment marqué les suiveurs du Tour. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de monde encore pour cette troisième et dernière étape sur les routes du Danemark jusqu'à une arrivée à Sønderborg. Et dès ce soir, les coureurs reprendront l'avion pour revenir en France.
Axel May pour Europe 1. Merci Axel.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy. Tout de suite sur la route du Tour.
Et tous les midis, notre rendez-vous bien sûr avec Richard Virenque. Bonjour Richard.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est une étape par rapport à celle d'hier, assez classique aujourd'hui. Hein.
Oui, exactement. Hein. Une étape classique, plate, avec peut-être un peu de vent. Le scénario, je pense, il sera similaire à hier, hein, ouais. Avec une échappée qui va être contrôlé rapidement par l'équipe du maillot jaune et une arrivée au sprint. Hein. Le maillot, ben, il va peut-être bouger hein, parce que Wout van Aert, ouais. Il a une petite seconde d'avance sur Yves Lampaert de Quick-Step. Donc il va peut-être bouger, mais voilà. Donc il faut voir une belle arrivée au sprint encore et après ben, les coureurs vont partir sur des horizons un peu plus compliqués parce que à partir de mercredi,
mais oui, les pavés,
exactement, les pavés, tout le monde les redoute. Ouais. Donc ça va être une étape aussi à suivre de près.
Dites donc, Richard, nos Français là, ils sont où?
Ils sont chauds, écoutez, je pense que tout va bien. Ils mangent, ils se font masser, ouais. Ils transpirent bien. Bon. Il n'y a pas de bobos pour l'instant. Il y a le champion de France qui s'est fait une belle petite frayeur hier, ouais. Mais il est reparti sans trop de casse. Donc les Français, forcément, on n'a pas les cadors du sprint.
C'est ça.
Ici sur ce tour, donc ouais. Malheureusement, il nous manque ça. Il faudra patienter une petite semaine et voilà. Donc
allez, on patiente. Voilà, merci le consultant européen sur la route du Tour, Richard Virenque. Merci à vous à
bonne
retenir
journée.
Et à
merci.
Vous aussi à retenir également en sport la belle qualification de la Française Alizé Cornet hier à Wimbledon. Elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Polonaise numéro 1 mondiale Iga Świątek. Écoutez la joie d'Alizé Cornet.
C'est évidemment une de mes plus grosses victoires en carrière, mais après j'y croyais. Voilà, tout simplement j'y croyais. Je me disais que j'avais une chance aujourd'hui de pouvoir la battre et je me suis vraiment accrochée à ça. Pourquoi pas moi finalement? En tout cas, j'ai une grande fierté d'avoir accompli ça et maintenant j'ai envie que ça continue parce que l'aventure n'est pas finie.
Voilà, et on souhaite aussi que ça continue pour elle, Alizé Cornet, avec Collab, Graal. En football, les Marseillais ont trouvé leur nouvel entraîneur. C'est Igor Tudor, le Croate, sera demain à Marseille pour signer son contrat de 2 ans. Il va également, bien sûr, rencontrer les joueurs. Le cinéma à présent, cinéma qui est en fait 4 euros. La séance à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, opération bien sûr bienvenue face avec bien sûr l'inflation et l'augmentation constante des prix du billet depuis 10 ans. Alors Louise Douillet a chacun ses astuces pour pouvoir bénéficier finalement d'un tarif réduit toute l'année. Hein.
Les yeux levés vers les affiches, Jocelyne réfléchit déjà au prochain film qu'elle ira voir. Son arme anti-prix à elle, sa carte illimitée.
Une carte d'abonné, c'est vrai qu'à 21 euros, on y va deux fois. Dans le mois, c'est déjà amorti. Moi, j'y vais trois fois par semaine. Mais si ça n'existait pas, eh ben, je n'irais pas au cinéma. Pas avec ma petite retraite. Hein. À 12 euros ou à 15 euros, plus le parking, ça devient une sortie hors de prix.
Pour Karine, la sortie ciné en famille, c'est un budget de 35 euros. Heureusement, pour le réduire, elle peut compter sur l'aide de son entreprise.
J'ai pu bénéficier d'un tarif avec mon comité d'entreprise. Donc comme ça, j'ai pu emmener les enfants aussi au cinéma. Si c'était vraiment le prix plein tarif, on n'y serait pas allé.
Parce que les salles montent en gamme, les prix flambent, même pour les moins de 26 ans. Mais Sarah a trouvé la solution, un autre cinéma, quelques kilomètres plus loin, à 3 euros de moins, ce qui lui paie son pop-corn.
On est venu ici en fait parce que ça nous coûtait beaucoup moins cher que si on allait à Châtelet-Léal.
Selon la Fédération nationale des cinémas français, à peine un tiers des billets ont été achetés à tarif plein l'an passé.
Voilà le reportage de Louise Douillet pour Europe 1, fête du cinéma. Jusqu'à mercredi, partout en France. Il nous reste à voir le temps. Et c'est le bon moment pour aller au cinéma parce qu'il va faire très très chaud dans le sud-est, Valérie Darmon.
Effectivement Thierry, avec ce dégradé qui est bien marqué du nord-ouest au sud-est avec 18 à 20 degrés des côtes de la Manche jusqu'à 34 à 38 dans la vallée du Rhône et sur le bassin méditerranéen. Météo France qui annonce tout simplement 37 degrés à Avignon, 36 à Valence, 35 à Grenoble, 34 à Carcassonne et à Lyon, 32 à Toulouse et Montauban, 30 degrés à Nice et à Nancy, à Paris 26 degrés, à Nantes 25, à 23 à Caen et Lille et 21 à Dunkerque. Des minimales aussi qui ne descendront pas dans ces régions du sud-est en dessous de 23 degrés la nuit prochaine et cette configuration qu'on va retrouver jusqu'à mercredi. Du côté du ciel, il est juste un petit peu plus variable dans le nord-ouest avec quelques averses qui se déclenchent ici ou là, de plus en plus rares au fil de la journée. Partout ailleurs, le soleil est généreux avant l'arrivée des orages, des Pyrénées au Massif central et sur les Alpes dans l'après-midi.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, Isabelle Maurice et qui reçoit l'acteur Thierry Lhermitte. Toutes les dernières informations, c'est sur Europe 1 à suivre. À tout de suite.